Bonjour frères et sœurs et bon sabbat. Je voudrais commencer aujourd'hui en vous posant des questions, quelques questions. Je vous invite à considérer vos réponses d'une manière personnelle et individuelle. D'abord, ma première question. D'après vous, quel sera votre état de progrès sur le plan spirituel d'ici un an? Pouvez-vous imaginer des choses que vous voudriez apprendre ou maîtriser? Alors, ma deuxième question est similaire. D'après vous, quel sera votre état de progrès sur le plan spirituel d'ici 5 ans? Encore une fois, quelle sorte de changement imaginez-vous faire d'ici 5 ans? C'est une question à réflexion personnelle. Maintenant, je passe à ma troisième question. Ça risque de changer des idées un petit peu, mais quel sera votre état de progrès sur le plan spirituel dans 100 ans? Bon, pourquoi je pose cette troisième question? 100 ans, c'est longtemps, n'est-ce pas? Nous croyons que d'ici 100 ans, Christ sera déjà de retour. Je sais que nous ne sommes pas censés d'établir des dates précises sur le retour de Christ, mais avec l'état du monde et les prophéties qui sont déjà en train de s'accomplir, je ne pense pas que le monde puisse durer encore 100 ans sans l'intervention de Jésus-Christ. Dans ce cadre, quel sera votre état spirituel dans 100 ans? Nous sommes convaincus que Jésus-Christ reviendra et que ceux qui sont les siens seront ressuscités et changés pour monter au ciel avec lui pour aller descendre sur Jérusalem, et que les siens vivront éternellement. C'est un grand changement. C'est un jour auquel tout le monde dans l'Église aujourd'hui s'attend. Donc, c'est un jour qui est plutôt réservé pour ceux qui sont convertis aussi. Considérons Matthieu 18. Matthieu 18, c'est un passage que nous lisons de temps en temps, mais à mon avis, ce n'est pas souvent que nous soulignons ce que je vais vous souligner aujourd'hui. Matthieu 18, ici, nous notons que Jésus bénissait les enfants, puis il dit quelque chose à ceux qui étaient assemblés, ses disciples et des parents peut-être avec leurs enfants. Au verset 3, Matthieu 18 et au verset 3, il dit ceci: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Examinons cette expression dans plus de détails maintenant. Cette expression, si vous ne vous convertissez. Je crois que souvent nous pensons seulement à la deuxième partie de ce verset. Il est un fait avéré que parmi ceux qui assistent aux assemblées de l'Église de Dieu aujourd'hui, c'est sûr que certaines n'ont pas encore fait ce pas d'être convertis. Ils attendent quelque chose peut-être avant de faire ce pas. Je ne sais ce que c'est pour chaque personne, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils attendent avant de se convertir? Peut-être. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent changer avant de commencer ce processus de la conversion? Mais ceci nous amène à la question: qu'est-ce qu'on veut dire par être converti? Le mot dans le grec veut simplement dire d'être invité, et nous savons qu'il faut que Dieu le Père nous invite premièrement. C'est Jean 6, 44 qui est très clair là-dessus. Par extension, cette invitation de Dieu le Père veut dire que l'aveuglement spirituel a été enlevé de ceux qui l'invitent. Et c'est par cette libération de l'aveuglement spirituel qu'un individu soit capable d'avoir une compréhension et une vie que n'était pas possible avant. Cette personne se rend compte du fait que Dieu a un plan pour l'humanité, que sa naissance n'était pas en vain ou par hasard, que les Écritures sont vraies. Mais des fois, on se demande si certains croient vraiment. Donc, on sait qu'il y a un appel. Et cet appel est un enlèvement de l'aveuglement spirituel. Puis on se rend compte du fait qu'on est obligé de répondre à cet appel, d'une manière personnelle et individuelle. C'est à nous de faire quelque chose avec ce que Dieu nous accorde. Pour beaucoup d'entre nous, cet appel nous a inspiré de changer la direction dans la vie, de s'approcher à Dieu. Nous avons compris qu'il fallait se repentir et de se faire baptiser. Considérons maintenant Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Si on se repente, si on se fait baptiser, on le fait pour le pardon de ses péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Donc cela veut dire, si on se repente et qu'on se fait baptiser, on reçoit le pardon. Lisons ici ce que Pierre dit au chapitre 2 des Actes. Actes chapitre 2 et le verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est sûr que on reçoit le pardon quand on se repente. Mais le pardon ne change pas notre comportement. Le pardon en lui-même ne change pas notre façon de penser non plus. C'est l'Esprit Saint qui guérit le cœur de l'homme et qui commence à avoir un impact sur notre façon de penser. Bien sûr, nous avons la loi pour nous guider dans l'obéissance aussi. C'est pour cela que Jésus a dit aux jeunes riches de garder ses commandements, par exemple. Reportons-nous maintenant aux Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Voici très tôt, au tout début de l'Église du Nouveau Testament, lorsque Jésus commençait à bâtir son Église comme il l'avait promis. Aux Actes chapitre 3, Pierre prononce l'un des premiers sermons entendus par l'Église du Nouveau Testament. Considérons en particulier un verset. En s'adressant aux Juifs, Pierre dit ceci. C'est le verset 19. Actes chapitre 3 et le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ici, nous observons encore une fois que Pierre a souligné qu'il fallait se convertir. Avant de continuer, considérant tout ce qui se passe pour construire une maison. On parlait il y a quelques moments, il y a quelques instants, nous avons discuté juste un petit peu que c'est Jésus-Christ qui commence maintenant à construire ou à bâtir l'Église du Nouveau Testament. Mais si on compare cette Église à une maison, est-ce que c'est aussi simple que bâtir des murs et un toit avec quelques portes? Si jamais vous avez participé à la construction d'une maison moderne, vous êtes au courant d'autres choses qui doivent se passer, qui sont beaucoup plus compliquées que cela. J'ai déjà eu l'occasion de participer à la construction de quelques maisons avec mon père et aussi des installations industrielles. Il y a Par exemple, la préparation du site à considérer, la construction de la fondation, l'encadrement, l'installation de fenêtres et de portes, la toiture, le parement, l'électrique, la plomberie, le système de ventilation, l'isolation, le gypse, la peinture, l'installation des armoires et comptoirs de salle de bain et de la cuisine, les tapis et les revêtements de sol, et encore beaucoup plus. Dans la même façon, il y a beaucoup plus de choses associées avec la conversion. Quel comportement associons-nous avec la conversion? Nous observons que parmi les premières choses qui changent dans le comportement se trouve souvent le respect du sabbat et des jours saints. Considérons Exode 31 à partir du verset 12. Ici, nous avons l'Éternel qui parle. Ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel qui parle, le Créateur du monde. Exode 31, verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Donc, nous voyons que parmi les premières choses qui font partie de la conversion, c'est de changer ce qu'on fait le jour du sabbat. Verset 14. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Cela veut dire ne plus travailler et bien sûr ne plus faire de nos propres divertissements pendant le sabbat. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui s'intéressait un peu à l'Église et qui vous a dit qu'il respectait le sabbat et qu'il n'observait pas Noël ni les Pâques? Pour moi, quand les gens m'appellent au téléphone ou quand ils m'écrivent par courriel pour me renseigner, pour se renseigner sur l'Église, s'ils me disent ces choses, ça attire bien vite mon attention. Ça me surprend même. Pourquoi? C'est parce que ces choses sont liées à la conversion. Les jours saints sont également un signe du peuple de Dieu. L'observance de ces jours fait partie d'un changement de comportement qui mène à la conversion. La dîme est également quelque chose qui nous signale que la personne est sincère et qu'elle fait les étapes nécessaires pour respecter les commandements de Dieu. Mais tout comme la construction d'une maison, il y a beaucoup d'autres choses qui participent à la conversion. Reportons-nous maintenant aux Actes, chapitre 26, l'un des derniers chapitres des Actes. Actes, chapitre 26. Ici, Paul discute avec le roi Agrippa. Et Paul parle de sa propre vie, son propre appel. Sa conversion, on peut dire. Actes chapitre 26, à partir du verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Et voilà, je m'arrête là pour expliquer qu'il est allé persécuter. Il allait persécuter l'Église. Et puis verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » L'aiguillon était comme une baguette avec une pointe pour donner un peu de peine au bœuf, à la charrue. Et des fois, le bœuf donnait un coup de pied en réponse au lieu de marcher. Paul sentait des problèmes de conscience pour la persécution qu'il allait porter sur l'Église du Nouveau Testament et qu'il avait déjà porté. Verset 15 maintenant, la réponse de Saül à cette époque. « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Voici ce que Jésus a promis à Paul, Saul à l'époque. Verset 16. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Voici la progression des ténèbres à la lumière pour ceux qui sont appelés. Paul a compris sa responsabilité en tant que ministre. Puis après, Paul indique ceci au roi Agrippa. Entre autres, c'est que pour lui, il fallait obéir la voix qu'il avait entendue. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Encore une fois, ici au verset 20, c'est mentionné la conversion à Dieu. Nous comprenons tous le fait que nous étions tous pécheurs lors de l'appel de Dieu, comme Saul était pécheur aussi, dans le péché. Dans un sens, on peut dire que tous ont transgressé la loi de Dieu, et c'est sûr, c'est dans la Bible. Par contre, nous sommes des pécheurs différents, de différentes cultures, avec différents points de vue, éduqués différemment. Donc, quand Jean-Baptiste prêchait le repentir, ils l'ont demandé « Que fait-on maintenant ?» C'était avant la venue du Messie, de Jésus-Christ, c'est à l'évangile de Luc, chapitre 3, où il disait à Jean-Baptiste, « Oui, vous avez raison, quelle est la prochaine étape, entre guillemets ?» Des fois, quand les gens s'intéressent à l'Église, ils ont cette perspective-là. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de suite? J'ai envie d'obéir, j'ai envie de changer. C'est ça, cette perspective magnifique. Considérons Luc maintenant au chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du verset 10. Dieu appelle des gens de par le monde et aussi, bien sûr, de différentes passés, de différentes façons de penser. D'une diverse type de personnes, une sélection diverse de personnes. Et c'est quand même souligné dans ce passage. Luc chapitre 3, verset 10. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains, pour être baptisé, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Donc ici, on observe, en résumé, qu'il y avait des différentes choses à changer pour des différents types de personnes. C'est parce que nous tous, nous débutons des perspectives différentes. Éventuellement, nous allons tous dans la même voie, mais chacun doit changer certaines choses. Pour celui qui se saoule, il doit cesser de trop boire. Pour une autre personne, elle pourrait dire, je n'ai pas de problème avec l'alcool, mais je fume, alors qu'il s'arrête à fumer. Paul discutait avec Félix le sujet de la justice. Il dit, c'est par là qu'il faut commencer, par les choses les plus flagrantes, mais cela va bien plus loin. Quels sont les deux grands commandements? Quels sont les deux grands commandements? En parlant d'aller plus loin. On sait que d'après Matthieu 22, verset 37 et 39, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dit pour le deuxième commandement, le deuxième grand commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements jouent sur l'amour pour Dieu, mais aussi sur comment on fait avec les autres. Il y en a qui sont très stricts, par exemple avec l'observance du sabbat pour le respect de Dieu, mais ils ne semblent pas bien faire pour les autres. Ils sont peut-être sévères avec les autres. Quand on est vraiment converti, on ne demande pas, entre guillemets, qui est mon voisin, car l'idée de demander cela, c'est d'avoir une perspective qu'on perde le temps sur nos voisins. Même dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de versets qui concernent le voisin. S'il perd quelque chose ou on le rend à lui, par exemple. Nous n'allons pas passer trop de temps avec ce passage, mais considérons Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Luc chapitre 10 et le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 26, Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Regardons ce que le docteur de la loi a répondu à Jésus. Verset 27, il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Donc, jusqu'à ce point-là, il a bien répondu. Jésus était même content, il semble, avec sa réponse. Mais lui, au verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, Et qui est mon prochain? Ben, il s'intéressait de qui était son prochain. Et pour moi, c'est intéressant qu'il ait posé cette question. On peut sous-entendre ici une sorte de préjudice peut-être, une hésitation d'accepter le deuxième commandement, même s'il le connaissait par cœur. C'est comme si on disait pour ceux qui sont comme moi, je vais démontrer l'amour. Dans mon voisinage, par exemple, ça va. Mais pour ceux qui sont de l'autre côté de la ville, bah, pas vraiment. Ou pour ceux qui ne partagent pas mon point de vue, ça va pas. Je reste sur mes bases et mon voisinage, c'est ce genre avec lesquels je m'entends bien. Et nous connaissons la réponse de Jésus à cette personne. C'est en fait la parabole, ou la parabole du Samaritain. Les Juifs méprisaient le Samaritain à l'époque. Et Jésus fait en sorte que ça soit le Samaritain qui est le héros de sa parabole, de ce récit, de cette histoire-là. Considérons le verset 36 maintenant. Nous allons considérer quelques parties. Nous connaissons déjà l'histoire. Mais considérons ce qui est marqué à partir du verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Donc on saute sur la fin, la conclusion de cette histoire. Et tous les trois sont passés, mais ce n'est que le Samaritain qui s'est arrêté pour donner l'assistance à cette personne. Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Donc ça, c'est la réponse du docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Si on se rappelle, quelle était sa question? Quelle était la question du docteur de la loi? C'est qui est mon prochain? Est-ce que Jésus a vraiment répondu à cette question? En fait, est-ce qu'il posait la bonne question en fin de compte? Pour moi, la question de qui est mon voisin ou qui est mon prochain, c'était pas le but du discours de Jésus. Ce n'est pas le but du deuxième commandement. C'est d'essayer de sélectionner qui est mon prochain et qui n'est pas mon prochain, par exemple. Jésus a souligné quand même le comportement de quelqu'un qui s'occupe de son prochain. Il a donné exemple frappant de comment on peut s'occuper de son prochain. Si nous sommes convertis, nous allons nous occuper de notre prochain. Ensuite, si on est converti, on aime notre prochain. On aime notre prochain. Considérons maintenant Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Une autre chose, si on est converti, une autre chose sous-entendue par la conversion, c'est un changement de comportement avec le couple marié. En mariage, nous avons la possibilité d'être exemplaires, d'être une lumière pour le monde, pour notre comportement l'un envers l'autre. Mais nous avons quand même cette histoire du prophète Osée. Dieu a demandé à Osée de faire des choses très difficiles. Il a demandé de se marier avec une femme qui allait commettre l'adultère contre lui. Cela pour illustrer, pour souligner la relation entre l'Éternel et son peuple dans l'alliance de Moïse, et le fait qu'Israël a fait l'adultère contre l'Éternel. Mais profitant de cet exemple, Osée chapitre 2, profitant de cet exemple pour souligner les qualités associées avec le mariage. Osée chapitre 2 et le verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Est-ce que nous attribuons ces choses, ces qualités au mariage, la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde? En choisissant l'épouse de Christ, le Père n'a pas choisi des gens parfaits, c'est sûr. Il est plein de miséricorde envers son épouse. Mais la relation entre Christ et son épouse est censé d'être établi sur la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Si on est marié dans la vie physique, il faut qu'on soit miséricordieux envers notre conjoint. Le mariage existe depuis le tout début de la création de l'homme. Le mariage est également plein de leçons qui nous enseigne concernant Christ et l'Église. Reportons-nous maintenant en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Considérons non pas seulement notre comportement, mais ce que nous allons comprendre ou apprendre en changeant notre comportement, En réfléchissant, en méditant cette relation, ce mystère, d'après les paroles de l'apôtre Paul, qui est très grand. Éphésiens chapitre 5 et le verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc ça, c'est un peu le résumé de ce qui précède ce verset. Maintenant, on voit les parallèles, autrement dit, la façon par laquelle le mariage nous instruit sur Dieu. Et il y a des leçons particulières pour les hommes par rapport au mariage. Mais c'est quelques versets avant. Éphésiens chapitre 5, maintenant le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je trouve merveilleux le fait que ce même verset intègre des conseils pour le mariage et en même temps des vérités spirituelles profondes. Pour moi, c'est incroyable la profondeur de ce qui est écrit ici. Des leçons particulières maintenant pour les femmes aussi, au verset 22, si on monte un petit peu plus dans ce passage. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc on s'arrête là parce que pour la conversion, ça devrait apporter un changement dans le comportement envers son époux ou son épouse. Considérons maintenant le comportement envers nos enfants dans le cadre de la conversion. Les parents ont une responsabilité d'élever leurs enfants, y compris la correction. Mais tout le long de leur éducation, il faut prendre en compte ces choses. Il y a des pères et des mères qui n'emploient pas la compassion, mais qui font mal à leurs enfants pour infliger la douleur. Ce n'est pas un châtiment efficace. Ce n'est pas un châtiment pour produire un changement positif. Ça risque même de provoquer la colère, d'irriter l'enfant. C'est même marqué en Colossiens chapitre 3 et le verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Ça peut être décourageant pour les enfants d'avoir une mauvaise façon, ou de recevoir plutôt une mauvaise façon de correction, de châtiment et d'éducation. En général, quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés de cultures différentes. Donc, dans certaines cultures, on emploie des techniques, des façons de faire différentes. Mais que chaque châtiment, que chaque correction d'un enfant soit avec l'amour et soit dans une perspective de produire un changement positif. C'est juste un exemple de comment considérer un changement vis-à-vis du monde et de ce que nous avons appris de notre propre enfance. Est-ce qu'il y a des changements qu'on peut intégrer dans notre façon de faire avec les enfants? Si nous sommes en train de suivre la bonne voie, d'être impliqués à la conversion, nous allons vouloir améliorer cette relation entre parents et enfants. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés à préparer la génération montante. Dans la même façon, chacun de nos enfants est différent. Chacun de nos enfants est unique. Donc, si on va préparer la génération montante, certaines formes de la discipline, du châtiment même, sont plus efficaces que d'autres pour certains enfants. Mais nous avons besoin de préparer nos enfants pour l'avenir. Ça fait partie de notre mission en tant que père et mère. Donc, la conversion devrait également avoir un impact sur notre comportement au travail. On parle du foyer ou de la vie familiale, mais aussi au travail, notre comportement doit changer aussi. Éphésiens chapitre 6. Il y a plusieurs exemples dans ce chapitre de la soumission, de notre attitude envers des autres. Et Éphésiens chapitre 6, commençons à lire à partir du verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Donc ça c'est Éphésiens chapitre 6 et le verset 5. Et dans le contexte du travail, nous ne sommes pas forcément des serviteurs aujourd'hui, nous n'avons pas forcément des maîtres, mais ceci veut dire que, entre termes modernes, les salariés ou les employés doivent avoir un respect sincère pour leur chef de travail ou chef au travail. Continuons maintenant au verset 6, ici aux Éphésiens chapitre 6. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. L'idée ici, c'est de développer une perspective que dans n'importe quel cas, même si on a un bon chef ou un chef qui serait peut-être mieux s'il changeait pas mal de ses habitudes, dans les deux cas, dans tous les cas, développons une perspective que nous ne sommes pas seulement des salariés d'une entreprise, mais nous sommes des serviteurs de Christ, comme ses serviteurs. Ici, c'était marqué au verset 6, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, dans cette perspective, nous allons peut-être passer par des moments difficiles avec un chef ou un collègue au travail, mais si on s'applique à cette idée d'être salarié ou d'être serviteur de Jésus-Christ, c'est lui qui nous gouverne, c'est lui qui nous dirige, c'est lui à qui nous allons nous soumettre. Verset 7 ici, servez-les avec empressement, comme servants le Seigneur et non des hommes. En faisant du bien envers un patron, au travail, on peut également servir Dieu. On peut fonctionner comme un servant du Seigneur. Et c'est ça qui est magnifique. C'est en gardant un bon comportement au travail, on fonctionne, bien sûr, en même temps, sous l'autorité de Christ. Verset 8 maintenant. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Puis, il y a un mot juste après pour ceux qui jouent le rôle de superviseur ou de patron. Verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstentez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Nous avons tous eu, probablement, cette expérience que si nous avons un employé ou si nous sommes en charge de quelque chose, même si c'est pas au travail, mais nous pouvons avoir de bonnes qualités dans certains domaines, de mauvaises qualités dans d'autres domaines, mais il faut quand même appliquer des principes que nous apprenons avec la conversion pour mieux traiter nos employés ou mieux traiter ceux que nous dirigeons, par exemple. dans une tâche ou au travail ou n'importe quoi. On est obligé de, des fois, motiver des personnes. Est-ce qu'on va les motiver avec des menaces, avec ces menaces, avec ces choses difficiles? Non, on va essayer d'appliquer, pas la force, pas les menaces, pas par l'instabilité, pas par un esprit critique, mais on va essayer de motiver les gens avec de l'encouragement, avec un bon exemple, avec le remerciement, avec l'idée de partager même le travail en équipe. Donc voilà des exemples de comment appliquer notre conversion, notre changement de comportement au travail aussi. La conversion porte sur notre façon de s'habiller même. Considérons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Lisons à partir du verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc ça, c'était le verset 8 à 10. En même temps, nous avons le parallèle de l'homme qui a invité tout le monde aux noces. Il faut se présenter devant l'Éternel avec respect, en faisant de notre mieux. Même si nous n'avons pas beaucoup au niveau du budget pour les vêtements, choisissons de notre mieux pour aller à l'assemblée. Si nous sommes invités, par exemple, chez quelqu'un pour un banquet formel, un grand repas, et si nous portons un t-shirt avec des shorts, ça ne démontre pas le respect pour l'hôte. Mais dans les prophéties, il est notable qu'au temps de la fin, les gens vont perdre le respect. Ils vont perdre la sensibilisation pour ces choses. Dans l'avenir, c'est sûr que un jour, nous allons apprendre aux gens d'avoir un respect pour l'Éternel et de quitter les mauvaises habitudes. Et la façon de s'habiller est comprise dans ces mauvaises habitudes. Passons à une autre chose maintenant. La conversion devrait avoir un impact sur notre façon de parler. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. La conversion devrait avoir un impact sur notre façon de parler. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Si un homme est converti, il considère ce qu'il va dire. Les choses qu'il dit sont issues de son cœur. Et est-ce que Dieu condamnerait quelqu'un pour des paroles méchantes? Oui, si les paroles révèlent ce qui se passe dans le cœur. Considérons maintenant Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Dans la conversion, un changement de comportement dans la façon de s'exprimer révèle qu'on travaille aussi dans l'esprit et au niveau du cœur. Éphésiens chapitre 4 et le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent communique une grâce à ceux qui l'entendent. Des fois, même si on n'emploie pas de gros mots, les sujets de conversations diverses et variées révèlent, des fois, un départ vers une pensée qui ne plairait pas à Dieu. Les sujets de discussion peuvent rester ancrés dans l'esprit. Donc, il est encore plus important de considérer les histoires ou les récits que nous allons partager avec d'autres, parce que la mémoire est bonne sur certaines choses. Des fois, la mémoire reste assez claire sur des mauvaises choses, alors qu'on perd la mémoire sur d'autres choses qui comptent. C'est malheureusement comme ça. Et ça montre l'impact de nos mots, de ce que nous disons envers les autres. La personne qui est convertie ne fait pas de blagues qui parlent de l'adultère, de choses viles ou de sujets inappropriés. Ensuite, considérons Ésaïe 55 maintenant. Ésaïe 55, quels sont nos sujets de réflexion? Ésaïe 55 et le verset 7. Considérons nos sujets de réflexion, de méditation. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc la conversion nous fait plus sensibles à nos sujets de réflexion. Si on prend en compte ce qu'on vient de lire de Matthieu 12 concernant le bon trésor, il faut quand même développer un bon trésor dans la pensée. Il faut réfléchir sur les bonnes choses, les choses vraies, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, les bénédictions qu'il nous accorde. On ne va pas se permettre, par contre, de méditer longtemps aux choses mauvaises. Des fois, il faut simplement se dire, avec la pensée qui passe, « Je ne vais pas me permettre à méditer sur ces choses. » La conversion nous donne un cœur, une envie de modifier, d'améliorer notre pensée, notre façon de faire envers les autres. La conversion implique ce qu'on lit, ce qu'on regarde sur la télévision, ce qu'on fait avec nos biens, ce qu'on fait pour entretenir notre domicile. Est-ce qu'on va réfléchir? Est-ce qu'on va passer du temps à méditer sur des sujets à la télé ou à la radio qui sont un peu négatives? La conversion doit nous changer complètement. La conversion doit nous changer complètement, de l'intérieur à l'extérieur. On ne parle pas seulement de la parure, on ne parle pas seulement des vêtements, mais bien sûr, il faut toujours penser en même temps de ce que nous pensons, de nos sentiments, de nos attitudes, et il faut les changer. Il faut s'adapter à la parole de Dieu. Il faut qu'on soit prêt à changer quand Dieu nous révèle des choses à améliorer. Voici des mots d'Ésaïe. L'Église est bâtie sur les paroles des prophètes comme celle-ci. Ésaïe, chapitre 1, verset 16. Je vais juste vous le citer. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez en plaidant, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. En fait, c'est à nous de mettre en pratique toutes ces choses. C'est une purification qui est en train de se faire. Ça, c'est la conversion. C'est une purification de tout le mal que nous avons adopté. De tout le mal, tout le péché, toutes nos mauvaises habitudes. Ça prend du temps, ça prend de la patience même avec soi-même. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons réussir. La conversion, c'est d'être le sel de la terre, c'est d'être la lumière du monde, c'est prouver aux autres que la voie de l'Éternel fonctionne, que c'est une bonne voie. C'est une voie qui mène à de bonnes choses, qui mène à la vie, mais aussi qui mène à une vie meilleure aujourd'hui. C'est ça la conversion, c'est devenir un exemple, devenir une lumière pour le monde. C'est ça que Dieu fait avec nous quand il nous appelle, quand on répond à cet appel. Les gens se demandent souvent, que devons-nous faire? On leur répond, s'ils demandent à autre personne, à d'autrui, on leur répond souvent, il faut respecter le sabbat. Et des fois, quand on leur répond comme ça, quand on dit ce qu'il faut faire, d'après la parole de Dieu, ils risquent de répondre, c'est impossible pour moi de respecter le sabbat dans le monde moderne. Comment ferais-je? Ou avec la dîme, si on leur dit, quand ils nous posent la question, que devons-nous faire? Si on leur dit, d'après la Bible, il faut respecter la dîme, ils vont peut-être répondre, c'est impossible pour moi, avec mes revenus comme ça, et tout ce que je dois payer. Donc, ils vont peut-être répondre, même après avoir demandé ce qu'il faut faire, ils vont peut-être trouver une réponse qui se justifie. Avec l'aide de Dieu, par contre, on peut tout faire. Même si ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui nous entoure, qui respecte le sabbat, c'est quand même possible. C'est possible de respecter le sabbat et c'est possible non pas seulement de le respecter, mais d'apprendre du sabbat et de bénéficier du sabbat aussi. Nous devons apprendre à mieux faire dans cette vie pour avoir une meilleure possibilité dans le monde de demain, dans le monde à venir. Le nouveau comportement ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas à l'instant T que ce nouveau comportement se produit. Dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre nous rappelle que le message de l'Évangile est accompagné de beaucoup de promesses impressionnantes. Si on s'applique à la conversion, on peut quand même avoir l'espoir de profiter, de participer à ces promesses magnifiques. L'apôtre Pierre, et ça sera notre dernier passage pour aujourd'hui, mais l'apôtre Pierre nous rappelle en 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, lisons à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est par la gloire de Dieu que nous sommes appelés, oui. Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La conversion, frères et sœurs, c'est aussi fuir la corruption. Fuir la corruption pour devenir participant de la nature divine. En résumé, c'est ça. Donc, quand nous considérons notre progrès sur le plan spirituel, dans les années à venir, que ce soit dans 1 an, dans 5 ans ou dans 100 ans, n'oublions pas cette promesse. C'est la possibilité de devenir des participants de la nature divine. Ça, c'est une grande promesse. Des membres de l'Église qui sont convertis aujourd'hui, qui s'efforcent à continuer jusqu'au bout avec l'aide de Dieu, servent et vont servir de témoins que la voie de Dieu est bonne, que vivre d'après ses commandements et ses préceptes apporte du fruit.